la grande fuite, la radio.
La seule émission qu'on cherche,
qui se barre,
qui fugue.
Les nouveaux cahiers pour la folie est une revue créée en 2009 alors que le tissage des soins devenait de plus en plus difficile sous une politique de gestion néolibérale. Elle naît aussi d'une protestation collective contre les discours de 2008 du président Sarkozy. Depuis l'hôpital psychiatrique d'Antony, il excitait la peur des citoyens à l'endroit de la folie et dégradait les patients psychiatrisés en schizophrènes dangereux, passible de mesures sécuritaires et, autant que possible, privé d'accès à l'espace public.
À chaque numéro est renouvelée la proposition d'accueillir et publier des contributions, écrites ou dessinées, émanant de diverses personnes impliquées dans les différents bords de la folie. Les 10 patients, sortis ou non de l'hôpital, les 10 soignants, infirmiers, psychologues, stagiaires, médecins, éducateurs, ainsi que des proches et tout un chacun qui s'y reconnaît à quelque titre que ce soit.
Le comité de rédaction s'est progressivement élargi et le club thérapeutique de Sommery, qui a publié à plusieurs occasions, en fait partie depuis maintenant 2 ans. Le club accueille l'ensemble du comité au sein de la clinique une fois par an. C'est ainsi que ce dimanche 6 juillet 2025, une présentation d'anciens numéros a eu lieu dans le grand salon vert du château.
Ce que j'ai fait, ça a été de faire une lecture, ayant été donc au comité de fabrication pour le numéro 15 cette année. Donc avec une certaine sensibilité au chemin de fer, c'est-à-dire à ce qui se trame, qui fait qu'on passe d'un texte à un autre. Enfin, c'est évident, mais faire, c'est aussi F-A-I-R-E. C'est un peu ce qui se passe quand on s'est réunis pour fabriquer. Je veux juste lire des extraits que j'ai pris, mais je ne veux pas dire les titres des textes. Par contre, je vais le faire dans l'ordre, et ce n'est pas tous les textes. C'est juste une sélection. Ça vous va? Mi. Las voces del silencio, el silencio de las voces. Fa, ¿por qué résonne-t-elle quand on n'est plus dans cette langue? Je ne me nourrissais pratiquement plus, je demeurais immobile. Je ne voulais plus bouger, question de survie. C'était comme une méditation pas voulue, instinctive. Thank you. un grand monsieur très noir, africain, robe blanche et en béquille, chapeau blanc et sac plastique coccinelle. Il croise un bonhomme bien rouge, habillé en rouge. Ah, l'extraterrestre vert sur les panneaux de signalisation, là, c'est bizarre. Dans extraterrestre, il y a terrestre. Donc, il y a terre. Ils ont trouvé que les terrestres étaient extra.
J'ai choisi le numéro 11 parce que c'est vraiment le numéro après le confinement où tout le monde avait été chamboulé.
Un ensemble de 7 récits de travail qui s'intitule « Ça bouscule, ça remue, ça perturbe et ça invente ». Et le septième, notamment... Le titre, c'est « L'après-coup des psy-confis ». C'est une infirmière qui parle des réunions. Des réunions, du cloisonnement, il a fallu changer d'organisation. Et elle écrit, je vous lis deux paragraphes, on ne va pas tout lire. L'éruption du coronavirus a été un bouleversement. Il n'y avait plus d'atelier. Les résidents ont dû être confinés, les foyers isolés les uns des autres. Il a fallu supprimer les horaires coupés et mélanger les horaires d'internat et d'externat pour assurer une présence éducative sur la longueur de la journée. Il y a donc eu un cloisonnement des lieux physiques, mais un décloisonnement des équipes. Chacun a pu découvrir dans la vie quotidienne et au cours des réunions le travail réalisé par les autres, sans plus être dans une ignorance et des représentations imaginaires engendrant des problèmes insolubles puisque sans dispositif pour agir dessus. Alors ce texte m'a rappelé quelque chose que j'avais vécu au début des hospitalisations de ma fille. Donc en 95, elle a été hospitalisée et puis après, quelques mois après, elle a été suivie dans un hôpital de jour, un foyer de nuit, et elle était suivie par un psychiatre à l'hôpital qui donnait les traitements. Et puis le week-end, elle venait chez moi. Donc ces trois structures et... Ma fille, au bout d'un moment, me disait « Je ne sais plus quoi faire. Le psy traitant me dit qu'il faut que je continue comme ça. Le psy de l'hôpital du jour dit que je ne suis pas en état de rentrer chez moi. L'hôpital du me dit qu'il faut que je travaille. » Et elle était complètement... elle dit « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et je me suis dit, mais c'est vrai que ce sont trois structures différentes. Comment se fait-il que les médecins ne pensent pas à communiquer entre eux? Alors, ils sont éloignés physiquement, mais ça n'empêche pas de communiquer, de parler des dossiers, de parler des patients, de parler... voilà. Et j'ai vu que dans ce même hôpital, en fait, en interne, c'est la même chose. Et là, j'ai découvert ça. Que ce n'est pas qu'une question de structures séparées. C'est un fonctionnement, une organisation psychique de communication où chacun fait son petit truc sans penser à la personne qui elle-même est complètement dispersée et disloquée, ce qui n'aide pas du tout. Enfin voilà. Donc la dislocation, elle n'est pas que chez la personne malade, elle est aussi dans l'organisation et la manière de travailler. Enfin, en gros.
Merci. Il est 14h devant le hall du château. L'ambulancier ne me dit rien. Et si on restait ? Visite à Chaille, 3 soignants hospitalisés. Une monitrice vient m'avertir que le médecin n'a pas besoin de me voir. Vous êtes sûr ? Non, c'est pas nécessaire.
Justement, je voulais parler du 7 parce qu'il y avait un titre, c'était l'époque des titres. Et du coup, qui s'appelle Radophonie, le numéro 7. Donc, fort de ce titre, ça a donné un peu un fil pour raccrocher des textes auxquels on n'aurait pas forcément pensé. En particulier... le texte à la fin de n'importe quoi peut faire repère. Une pierre, un geste fait par inadvertance. Mais ça, c'est tellement difficile à voir. Voilà. Et alors du coup, l'édito avait été écrit aussi en fonction de ça. Mais sur le thème de la navigation, du bateau, voilà. Après, mais parce qu'il y avait des textes, il y en avait un qui s'était arrivé comme ça, sur la tempête, il y avait les naufragés du Foie d'Espoir, un autre. Et c'est aussi, je voulais parler de celui-là, parce qu'il y avait là-dedans, comme tu l'as dit ce matin, Angelica, des textes en espagnol. Et on avait fait un numéro bilingue et on avait mis la couverture des numéros d'un autre journal qu'on était allé chercher.
Lobo rojo.
Un journal qui avait la particularité d'être vendu par les résidents de l'hôpital à l'extérieur.
Oui.
On avait appris ça. Et c'est comme ça qu'on était tombé sur ces textes de quelqu'un dont certains recueils ont été publiés après, qui est Leopoldo Maria Panero.
Oui.
C'était Santa Agueda à Mondragón, en Espagne. Voilà, diffusé et vendu hors de l'asile par ceux qui la fabriquaient. Et Panero est poète, traducteur et critique. Et il a été interné une grande partie de sa vie dans cet hôpital. Mais il participait
à initier le journal.
Ouais. Oui, je ne sais plus. Mais c'est il a eu un rôle décisif dans la. Ouais, il m'avait trouvé tout ça.
Et je me rappelle que l'exercice de traduction, il y a un jour où on a beaucoup. C'était drôle. Parce que bon, j'ai des problèmes de prononciation, d'articulation. Et à un moment donné, il était question de. Il parlait de l'épaule, l'épaule sud, nord. Et c'est de là. Poule! Et poule! Et non! Et c'est de. Non, mais c'est. Il y avait des choses comme ça.
Ah, on était au café à Saint-Denis,
ouais,
je crois.
À Saint-Denis, oui.
Pour cette séance.
Ouais. Non, mais c'était super drôle. C'était super agréable aussi de faire ça.
Comment vous êtes tombé dessus? Je me souviens qu'on avait cherché.
Il me semblait que c'est toi couvertures. Et des couvertures.
Oui. Parce que. Oui, parce que l'idée, c'était de reprendre des couvertures d'autres revues.
Des revues.
Qu'on a toujours poursuivi d'ailleurs dans le numéro. De faire.
Et ça a entamé la recherche.
En sorte que dans chaque numéro, il y ait un écho de, d'autres revues qui se sont faites ailleurs et pas forcément en France. Bon, après, c'était aussi le numéro où on a. Et on a retenu des extraits de Trait d'Union, la revue de Saint-Alban. Et là aussi, il y avait des petites des perles. Voilà, et ça, c'est. Voilà, on me dit d'écrire sur le cahier et je ne sais pas quoi mettre dedans. Je vais l'écrire. Je vois hier Monsieur Gau. Goss, le nom est abrégé, ouais. A voulu interpréter une chanson, et c'est dommage que je n'ai pas eu un fusil, car on aurait fait un bon civet de canard. Voilà, Henri Candari. Voilà, c'était. On s'est beaucoup amusé pour ce numéro. Voilà. Ça aussi, ça fait partie.
C'est plaisir. C'est un comité de fabrication.
Oui, c'est un début. Il y avait mis debout à la fin tout ce qui s'est sorti. Voilà. Voilà pour le numéro 7.
Heureusement, l'amour est venu me chercher. Perdue et angoissée, j'étais tout apeurée. Sans scrupule, les voix me parlaient librement. Elles s'exprimaient fort dans mon esprit changeant. C'est l'angoisse et les voix qui s'animent ensemble. En un concert feutré, c'est tout mon corps qui tremble. Les fragments de la voix laissent passer le vent d'ici, celui d'ailleurs. La voix m'est familière. J'écoute, je n'entends pas, je ne ris pas, je n'en sors pas. Les voix, ça rentre à l'intérieur de soi, ça nous paralyse. Et pourtant, ce n'est pas une peur à me laisser entraîner. Moi, je sors quand même. Les voix s'introduisent à l'intérieur et il n'y a que mes oreilles qui subissent le choc. Les autres n'entendent pas. Le monde des voix, c'est la terre entière.
Je peux dire en plus, j'ai fait les choisir en numéro, alors je me suis dit, tiens, le 6. En fait, avec quand même un peu une idée, parce qu'il y a eu pas mal de présentations des cahiers, et j'ai souvent présenté un texte de ce numéro qui s'appelle « Je suis dans ce trou », qui est un témoignage d'une patiente sur son expérience en chambre d'isolement. Et comment ?
Justement, puisqu'on en a parlé
oui,
ce matin.
Oui, on en parlait ce matin. Et donc, c'est un peu ça qui m'a fait choisir ce numéro, parce que c'est quand même un moment fort d'avoir été passeuse de ce texte-là. Mais avant même ça, en fait, ce texte, il avait, avant d'être passé dans les cahiers, il était passé au sein de l'hôpital. Et c'était ça, je pense, déjà le temps important de cette affaire. Et du coup, je me suis dit, mais je vais relire les autres textes qui sont dans ce numéro, parce que je ne me rappelais pas des autres textes qui étaient dans ce numéro. Et je découvre que c'est l'année, en fait, où le comité de rédaction s'est élargi, en fait, ce numéro, le numéro 6. Et dans ce même numéro, il y avait, Angélica, ton témoignage de ton expérience de stagiaire à Erasme. C'est surtout concentré sur ton expérience au CATTP. Et il est génial ce texte où tu racontes, t'es venue au CATTP, à l'hôpital de jour, comment une fois tu n'as pas pris le bon RER, que t'as suivi quelqu'un où t'avais l'impression que cette personne sait où elle allait et que tu la suis jusqu'à trouver avec une patiente du CATTP qui avait aussi raté son train, avec qui vous allez prendre un pot.
Et c'était une patiente qui était mélancolique. Elle faisait à ce moment-là, il y avait des
électrochocs, sismothérapie.
Et elle n'arrivait pas à parler avec moi, mais elle m'avait déjà dit qu'elle avait des origines espagnoles. Et c'est quand j'ai commencé à lui parler en espagnol qu'elle elle s'est ouverte. Et on a réussi à avoir, prendre un café. Non, mais ça.
Ouais, c'est la liberté quand on est stagiaire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Et dans ce numéro, il y a aussi l'interview sur un atelier de danse et de théâtre qui a eu lieu pendant une vingtaine d'années, je pense, à Ville-Évrard. Et du coup, en le relisant, je disais que ce numéro, mais comme d'autres, en fait, c'est des mots, mais c'est très imprégné de corps. Parce que le texte qui m'a amené là, c'était « Je suis dans ce trou autour du corps dans ma chambre d'isolement ». Et que, le corps... qui sont des questions, je pense, qui occupent beaucoup quand on travaille en intra-hospitalier, la question du corps, ou sans s'en rendre compte, en tout cas. Ça m'a apparu que ça prenait une place importante dans ce numéro.
Et ça me fait associer à quelque chose, parce que dans les journaux de stage, je me rappelle qu'il y a un patient qui m'a impactée. C'était un monsieur qui... marchait, il avait des problèmes moteurs Et, mais il prenait tellement soin de sa manière de s'habiller, il était fier de dire que la cravate, ça sortissait avec les chaussures. Et, oui. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai entendu qu'il criait dans les toilettes. Et j'ai parlé avec un soignant, mais il m'a dit non, ne t'inquiète pas, il est en train de se battre avec ses voix. On sait déjà que c'est sa manière de s'abaisser. Après, il va sortir et ça va aller. Et ça m'a paru très intéressant, oui, comment l'équipe soignant, oui, est prête à accueillir. Bon, c'est ce qu'il faisait, oui. Et c'est allé. Et après, il sortait.
C'est bien, il était toujours content.
Oui, ah, oui, c'est toujours
bien.
Oui.
Et ce que je peux dire dans ce numéro, parce que j'avais oublié, ouais, sur la question de la fonction passeur, ouais, qui est quelque chose sur quoi on avait un peu réfléchi, ouais, 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 au cahier, et bah dans ce numéro, par exemple, je suis dans ce trou, qui est un texte d'un témoignage d'une patiente sur son expérience en chambre d'isolement. En fait, c'est une patiente qui était hospitalisée et qui avait écrit manuscrit, quoi, un texte, dans le service où je travaillais alors. Et en fait, la cadre du service lui avait dit: mais Julie, votre texte, il est formidable, il faut que tous les soignants de l'hôpital puissent y avoir accès. Donc du coup, elle l'avait pris sous la dictée pour l'écrire à l'ordinateur, quoi. Et puis, ça avait été mis dans les postes de soins des différentes unités de l'hôpital. C'était comme ça que c'était parti.
Rien, hein. Ouais.
Et moi, je m'étais dit, je vais donner des exemplaires des nouveaux cahiers à consulter à cette patiente, en lui disant que si toutefois ça lui parlait, les nouveaux cahiers, il pourrait trouver sa place dans le prochain numéro. Donc, c'était allé à sa rencontre.
Définition de l'aliéniste. L'aliéniste est un oiseau à longues pattes, à la tête chauve, qui, par son intelligence, se tient entre l'oie et l'imbécile.
J'adore l'édito du 12 parce qu'il y a toujours quelque chose de magique dans l'édito. Et l'édito est toujours un petit concentré de ce qui a été, ce qui se dira après. Et donc, cet édito renvoie à la marge, tomber dans la marge ou à la marge. Et je me souviens que quand on a travailler cette histoire de marge, et dans le comité de rédaction et dans ce que vous dites souvent, la marge, c'est quelque chose que j'ai peut-être plus investi encore depuis que je suis au cahier. Et donc, il y avait cette secrétaire qui prenait des notes pendant les réunions et qui griffonnait dans la marge. D'où les petites frises comme ça qui parcourent le 12. Ça m'avait beaucoup plu. Peut-être parce que je fais partie des gens qui griffonnent vraiment leur marge. Donc, du coup, j'ai repris ce numéro. Et donc, il y a plein de bouts de texte. Par exemple, Ma liberté, c'est le titre du poème. C'est ça la confiance. Y a-t-il des libertés si tout est basé sur la confiance? Confiance en nous, confiance en l'autre. Je ne sais pas, j'ai réfléchi en même temps que j'écris cet article. Ensuite, j'ai repéré, c'était le post-Covid, donc il y avait les notes cliniques en temps de pandémie. Il y avait aussi quelqu'un qui écrivait la Covidation du monde. Donc quand même, je me disais, ça avait vraiment impacté nos pratiques, nos pensées. Et puis il y avait surtout l'histoire du petit garçon qui avait perdu sa langue. Et cette histoire était, quand on avait reçu cette histoire, on avait publié, vous vous rappelez, le papier tel qu'il avait été découvert dans un livre. Et dans le numéro 13, il y a eu une suite à cette contribution. Et ça, c'est hyper touchant d'avoir ce continuum comme ça. Ensuite, j'avais pris d'autres textes, mais je vais aller vite. Et puis, il y a quelque chose aussi qui m'a intéressée en parlant de la marge. Il y avait l'hommage à Guattari, qui est quand même pas quelqu'un de conventionnel. Et puis, danser l'imprévu sur Nijinsky. Et puis, il y a une contributrice qui a écrit deux poèmes, qui ont été mis un au début et l'autre à la fin. Raconter mes expériences m'amusait presque plus que de les vivre. Les phrases s'enchaînaient, coulaient, sans avoir à faire l'effort de réfléchir. J'aimais ce plaisir. Il ne me reste plus que son souvenir, aussi trouble et fugace qu'un mirage. Il faudrait écrire toujours, parce qu'écrire, c'est vivre. Bon, après, j'avais été un peu bavarde. Là-dessus, je peux m'arrêter là. Ah si, il y avait la baratinothérapie. J'avais adoré ça aussi.
Pourrir dans la terre, c'est rudement dégoûtant. Mais être brûlé, ce n'est pas beaucoup plus chouette. Pourtant, il n'y a pas de pourtant. Moi, j'ai inventé un procédé qui dégote la crémation et l'inhumation. Je remplace tout cela par l'incinération. Hein? L'incinération. Je le mets dans mon four, un four particulier de mon invention, et je le dessèche. Je les dessèche, vous entendez bien? Je les dessèche. Je ne les cuis pas, je ne les rôtis pas, je ne les brûle pas. Je les dessèche. C'est-à-dire que je les débarrasse par évaporation de toute l'eau qu'il contient. Savez-vous à peu près la proportion de l'eau dans le corps humain?
Un mot du numéro 14, c'était
ouais.
Donc le numéro 14, c'est le numéro pour lequel j'ai participé au comité de fabrication pour la première fois. Et l'édito, là aussi, il est marqué par des remous qu'il y a eu, je crois qu'on peut le dire comme ça, dans le comité de rédaction, autour de la question de l'engagement. Les uns et les autres ne partageaient pas forcément la même conception de l'engagement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc l'édito marque un peu... ce passage-là. Après, dans le numéro, c'est un numéro où il y avait pas mal de poèmes aussi. Celui-ci qui était sous la forme d'une lettre qui s'appelle « Cher Mallarmé ». Juste un passage. Cher Mallarmé, nous qui nous accompagnons, soignants, soignés, nous qui nous apportons, créons, nous enrichissons, pleurons, explosons, dedans, dehors, mêlés. Cher Mallarmé que nous sommes, continuons de nous rencontrer, de ne pas renoncer. Continuons d'essayer d'émerger des silences, des absences au monde, des places auxquelles nous sommes assignés et de celles auxquelles nous nous assignons nous-mêmes. Il y a deux chansons que le GEM de l'Entre-deux à Saint-Denis nous avait envoyées aussi. Il y avait ce texte qui s'appelle Anamnèse, qui moi m'avait particulièrement plu, dans le sens où c'est donc une contributrice qui raconte tout un itinéraire de voyage avec ce qu'on qualifie en psychiatrie de voyage pathologique, mais là c'est décrit d'une manière tout à fait subjective et très, très intéressante, où elle va de lieu en lieu. Voilà, et donc elle nous avait demandé, c'est un texte assez long, on en a publié des extraits du début et de la fin. Il y a aussi le carnet de voyage à Stockholm du club de Sommerie. Il y a des contributions dessinées. Il y avait tout cet article sur la fresque autour de la maison des familles d'Evry, c'est ça? Avec des photos qui sont... Je trouve qu'elles sont en noir et blanc, mais ça rendait quand même très, très bien les pages comme ça, tout en noir et blanc, qui ont inspiré la couverture du numéro 5. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ce texte-là, Anamnèse, il fait suite à une lettre qui a été publiée dans le 12, dans le 13, où elle témoignait des conditions de son hospitalisation en Guyane française, qui était la fin de ce voyage qu'elle a fait. Et là, dans Anamnèse, elle fait vraiment l'anamnèse de cette histoire, en partant de son histoire infantile, et puis tout le déroulé de ce voyage.
Et d'ailleurs, elle fait entendre des choses qu'on n'entend pas souvent dans ce qu'on appelle un peu bêtement, puisqu'elle part de l'enfance. Quoi.
Oui, c'est ce décalage-là, je trouve.
À un moment donné, seulement, d'un seul coup.
Voilà, après, il y a d'autres choses. Il y a le premier poème que tu as publié aussi dans l'envolée de mes pensées.
Ah oui, dans le 14.
et puis là, tu vas l'envoyer mes pensées. Et puis le tome 2, enfin le deuxième épisode des entretiens de Marie-Odile Supligeau, dont on a parlé ce matin aussi, sur l'histoire des cahiers pour la folie. Donc, là, on publie aussi des pages des cahiers pour la folie, avec des trucs très cocasses. Ouais. Et puis des messages de rue.
On les adore. Il y en avait dans le...
Oui.
Les messages
de
dans le
11. Oui, c'était les messages pendant le confinement. Les gens s'exprimaient beaucoup par des panneaux, des tissus aux fenêtres, des messages sur les rues.
Dans mon mémoire, je ne disais pas que Panger était psychotique. Cela n'avait aucun intérêt ou sens. Mais qu'il construisait, par l'écriture, un lieu habitable, dans lequel il pouvait explorer des structures d'univers alternatifs.
Quelle forme ça prendrait. Et la manière dont c'est l'imprimeur du coin où j'ai apporté le truc dont on ne savait pas si ça resterait en ligne en fait, qu'il y avait de la demande pour que ce soit, que ça puisse se tenir entre les mains. Je suis juste allée faire ça chez l'imprimeur du coin. Il s'en est vendu un certain nombre, un forum de trompeurs, à l'hôpital, je ne sais plus. Un édito qui est pas encore entre les deux bons hommes qui se racontent des histoires d'un numéro sur l'autre, c'est lui et elle. L'édito, c'est lui et elle, et qui reprenait des fragments de ce qui était en cours comme discussion, de quoi il s'agit avec les nouveaux cahiers pour la folie. Pourquoi les nouveaux cahiers pour la folie? Parce que nous en avons besoin. Nous, c'est-à-dire soignés, soignants, familles, résistants, mobilisés ou immobilisés, amis, ennemis, ayant affaire à la folie telle qu'elle se dit en ces différents lieux. Lui, perplexe. Oh là, pas trop vite, hein. Nos ennemis ont-ils vraiment besoin des cahiers pour la folie? Et avec le principe des mails qui arrivait, puisqu'il y avait eu un texte dans Chimère qui annonçait cette nouvelle revue qu'elle allait se créer. Et il y avait un certain nombre de mails qui dit par exemple « Bonjour, peut-on participer au cahier pour la folie et à vos travaux ? Bref, j'aime bien ce que j'ai lu de vous et j'ai envie de faire un bout de chemin parmi ces poussières d'événements. S'y joignent trois textes, j'en ai d'autres dans la besace. Et aussi, beaucoup, je suis fière de passer au mixeur des cahiers pour la folie, parce qu'on avait parlé de « on prend, on mixe ». Il y a un texte que j'avais oublié, que j'ai trouvé très beau, je vais vous lire le début, c'est « En pain d'épices ». Et depuis expérience de la folie, et qui reprend et qui décline vraiment autrement l'idée de la pierre de folie, hein, qui vous dit que c'est un grand topos. Au cœur de son cerveau se loge un caillou blanc, glacé, aux arêtes acérées, qui parfois taillade les tendres ménages qui l'entourent. Il sait cette pierre. Il la sent qui s'essaie à glacer son âme. Parfois, il reste immobile, pétrifié sous un froid mordant qui paralyse tout et le plonge dans l'effroi. Car il arrive que son esprit tout entier se glace ainsi, réduit à un blanc sans réponse où plus rien n'existe, rien ne compte, où seul règne la peur. C'est blanc, c'est tout ce qu'il sait, c'est blanc et froid et ça fait peur. Après, il y avait d'autres mails, un dialogue entre la folie résonante et la folie échevelée. Après, il y avait un texte sur la psychiatrie vétérinaire. Il y avait des fragments, une expérience d'un infirmier psychiatrique, un poème, je respire, ça commence, il balance du néocodion par la fenêtre de ta cave, c'est peut-être pour ça que tu te sens pas bien. Alors, comme c'est le numéro zéro, il y a des textes aussi un peu programmatiques, hein. Réflexion éthique et citoyenne pour lutter contre l'éparpillement et la perte de sens de la psychiatrie. Une lettre au directeur à propos de la réception du dispositif de signalement et de gestion des événements indésirables en forme de FSEI, qui ironise à fond sur les événements indésirables et qui renverse ça. Et une grève qui a été victorieuse. Et dans le numéro précédent, on a publié un compte-rendu d'une grève qui a été victorieuse. Pour dire que ça arrive, les grèves de soignants, c'était sur les conditions de travail, c'était assez après que la folie soit. Il y a des images de l'hôpital de Volterra. Time is out of joint. Expérience très au corps. Alerte de tempête sur la psychiatrie. Méthode de visite de discréditation, référentiel numéro 39. Ah, il y en a une dont j'ai plusieurs fois, quand je présentais les cahiers dans les premiers numéros. Oups, plus qu'une minute, alors je m'arrêterai là-dessus. Signé un fou parmi tant d'autres, c'était la personne qui a choisi. C'était au journal de France 2. Et ce jour-là, j'ai bien cru que je perdais mon self-control. C'était un vendredi, je crois. Quelqu'un avait été poussé contre une rame, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Non pas que ce n'était pas triste et déplorable en soi, non. C'était la façon dont cet événement avait été traité par les journaux d'information qui m'avaient mis hors de moi. On apprenait avant même la fin de l'enquête policière que la majorité des pousseurs sont schizophrènes paranoïdes. Le couperet était tombé.
Cette histoire n'est pas l'histoire d'une guérison, mais c'est l'histoire d'une appropriation. C'est mon histoire. C'est ce que je vis. Et que je n'échangerai pas ma peau pour une autre.
Émission radiophonique réalisée conjointement avec le comité de rédaction des nouveaux cahiers pour la folie et la radio, la grande fugue du club thérapeutique de avec nos remerciements à les troupes de l'imaginaire pour leur composition musicale. Aïe poule 2, aïe poule 1 et novembre au soleil qui accompagne l'émission.